quatre frères et sœurs de notre église sont passés par les eaux du baptême. J'ai utilisé ça pour la scène aussi. Amélie, Annabelle, Emmanuel, Mélisse, par ordre alphabétique. Quelques mois auparavant, Eunice, Sarah, Thomas, Yannick. Elles nous ont partagé leur parcours avant que Dieu ne les rencontre. Elles nous ont partagé leurs nouvelles assurances, leurs convictions, leur sécurité. Elles ont démontré leur obéissance en passant par les eaux du baptême. Certains, j'aimerais à leur attention et à notre attention nous rappeler deux textes. Le premier texte, il se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 23. Nombre 6, c'est Dieu qui parle. Par l'intermédiaire d'Aaron et ses fils. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Et ainsi mettront mon nom, dit Dieu, sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans le Nouveau Testament, par la plume de l'apôtre Paul, au chapitre 13 et au verset 13, cette formule de bénédiction, que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'intention primaire de Dieu à votre égard, à notre égard, c'est la bénédiction. L'intention profonde de Dieu, c'est de nous bénir. Le mot bénédiction, ça évoque un fait réconfortant. Il signifie action de bénir. Le verbe bénir est synonyme de dire du bien. L'opposé, c'est maudire. Et dans le mot maudire, il y a mal. Dire du mal. Bénir est le fait de Dieu et de ceux qui lui appartiennent. Alors que maudire est le fait du diable et de tous ceux qui disent du mal et qui veulent du mal. Ce qui est intéressant, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu, lui, ne veut pas nous maudire, mais qu'il veut nous bénir. Et quand on décide, quand on répond à l'appel de Dieu, la chose extraordinaire qu'on peut être assuré, c'est que Dieu, il veut nous bénir. Mais ce matin, on va regarder le contexte de cette bénédiction. On va regarder comment cette intention de Dieu, c'est l'intention de son cœur, elle se manifeste. Dans Matthieu 7, 7 à 11, il est dit, « Demandez et l'on vous donnera pas. Cherchez et vous ne trouverez pas. » Non. « Frappez et l'on vous ouvrira. » Et on a un peu de mal avec ça. On pense que Dieu va tout nous donner, tout nous ouvrir. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Nous les hommes, on a mis des barrières. C'est-à-dire qu'on souhaiterait quelque chose, mais on ne le demande pas. Ou on va le demander à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse parler à quelqu'un d'autre, pour que finalement il puisse envelopper. T'as un rapport avec machin, tu ne pourrais pas lui dire que j'aimerais. Mais la Bible nous demande de demander directement. Dieu désire répondre favorablement, libéralement, à nos demandes, pour autant, et j'ajoute, qu'elles soient selon sa volonté. Ceux qui sollicitent de sa part amour, sagesse, patience, persévérance, sont certains d'avoir une oreille attentive. Car de telles requêtes correspondent à la volonté de Dieu. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi nous ne recevons pas ? Parce que finalement, nous ne demandons pas. Ou on demande des choses qui ne sont pas exactement ce que Dieu veut. Dieu donne à tous simplement et sans reproche, dit l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Dieu donne simplement et sans reproche. Car la demande exprime un besoin et non une fantaisie. Et combien éprouve la tristesse quand nous doutons. Est-ce que Dieu est capable de nous donner ? Est-ce que Dieu est capable de nous entendre ? Il est capable. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand Dieu nous parle, Dieu nous interpelle et nous demande de bénir, c'est-à-dire de dire du bien. Dieu ne nous a jamais demandé de maudire qui que ce soit, de juger qui que ce soit. Et c'est un exercice pour nous chrétiens qui est difficile. Parce qu'il est plus facile, n'est-ce pas, de remarquer les défauts que les qualités. De remarquer les problèmes que les récompenses. Et moi, je pense que pendant, à l'arrivée, à l'approche de cet été, hein, les chaises sont un peu vides ce matin, pendant l'inoccupation, pendant l'été, on a cette tendance à se relâcher. À dire au Seigneur, le Seigneur lui aussi est en vacances. Mais je vais vous assurer de quelque chose, mes amis. Le diable, lui, il n'a pas de congé payé. D'accord ? Il n'est pas aux 35 heures. Et une chose qu'il fait, c'est qu'il nous fait douter. Quand nous baissons la carapace, quand nous le laissons nous interpeller, il est bon de se rappeler que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur ceux qui doutent. Sur ceux qui sont fatigués, c'est quand on est fatigué que l'adversaire nous détruit. C'est quand on est usé, quand on est lassé d'attendre le temps de Dieu. Je voudrais que ce soit notre temps. Seigneur, donne-moi de la patience. Et fais-le vite. Seigneur, donne-moi, j'en ai besoin maintenant. Dieu sait. Vous demandez la bénédiction ? Demandez-la résolument. Ne soyez pas celui qui doute. Nombre 6, 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous imaginez que à chaque fois qu'on pense mal de quelqu'un, même de notre ennemi, de ceux qui nous volent du mal, de ceux qui nous font du mal, que nous puissions prononcer cette phrase sans retenue. Que l'Éternel le bénisse. Ça changerait notre vision, n'est-ce pas ? Plutôt que de méditer le mal. Seigneur, détruis-le. Seigneur, élimine-le. Tu vas quand même pas le sauver, lui, après tout le mal qu'il m'a fait. Plus Dieu bénit, et plus l'adversaire réagit. pardon, s'il faut prier avant la bénédiction, à combien plus forte raison il est nécessaire de prier après la bénédiction. On va lire un texte ce matin dans Jacques 1, au verset 2 jusqu'au verset 5, et nous lirons les versets 9 à 15. On est dans le contexte de la bénédiction, d'accord ? De bénir. Mes frères, regardez, vous y êtes, Jacques 1, dans le Nouveau Testament, presque à la fin. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et là, si quelqu'un manque d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si vous allez jusqu'au verset 9, maintenant, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne tente personne et ne peut être tenté par le mal. Que chacun, quand chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La première des choses, c'est l'épreuve. Au cours de cette épreuve, il y a des mots qui sortent. Épreuve, tentation, exposé, supporter, tenter. Le mot grec, le mot original qui a servi au mot tentation, c'est mise à l'épreuve. Mais il y a une autre traduction qui dit sollicitation à mal faire. Sollicitation à mal faire. C'est pas juste. La tentation, c'est ça. La tentation, c'est pas rentrer sur un terrain forcément bien. C'est être tenté de mal faire. C'est douter. Au verset 2, il n'y a pas de doute sur ce sens. Garde-toi, c'est Job 36, hein, au verset 21, il dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. La fatigue, la souffrance, la difficulté nous y amène. Après tout, à quoi ça sert de résister ? Personne ne me voit. D'abord, les autres, ils font bien comme moi aussi. Oh, je connais plein d'histoires. Dieu permet l'épreuve, mais ne nous soumet pas à la tentation. Dieu permet l'épreuve, mais ne nous soumet pas à la tentation. C'est notre prière pourtant. Hein, c'est une prière. Un serviteur de Dieu a fait la remarque suivante. Il a dit, toute épreuve est une tentation au doute, au découragement. Toute tentation est une épreuve pour notre foi et notre fidélité. Je relis. Toute épreuve est une tentation au doute et au découragement. Toute tentation est une épreuve de notre foi et de notre fidélité. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pris ce texte d'un Corinthiens 10 pour la scène, vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu, à la table du diable. On est tenté. On est tenté de résister, on est tenté de ne pas y aller. Mais la première des choses, c'est une épreuve. C'est un test de notre foi. Nous disons que nous avons la foi, nous sommes confiants, mais finalement on lâche. Parce que quelque part, nous ne croyons pas que Dieu est suffisamment puissant pour nous garder. Que Dieu, s'il nous soumet, si, si Dieu permet que nous passions par cette épreuve, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On le connaît le texte. Quand tout va bien. Mais quand ça bouge, wouhou ! Seigneur, où es-tu ? Toute épreuve est une tentation au doute, j'ai trouvé cette phrase belle, et au découragement, toute tentation est une épreuve. S'il y a épreuve, la deuxième chose, il y a la foi. Avec les termes qui appartiennent à la sphère de l'épreuve, on trouve immanquablement ceux qui font partie au domaine de notre foi. Dans notre texte, il est parlé de joie, de patience, de grâce et de don. D'un côté, l'épreuve, la tentation, j'y vais. Et d'un autre côté, la joie, la patience, la grâce. Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est ton nom que je porte. Seigneur, si tu permets que je passe par là, tu vas me soutenir. Parce que tu m'as promis que tu serais là. La foi seule nous rend capables d'affronter l'épreuve, de la regarder comme un sujet de joie complète. Ouh ! Faut l'écrire dans le marbre, hein ? Parce que des fois, on dit, ça va être très complet, là, parce que par où je passe ? Ouh ! Je peux pas aller plus loin. Hébreux 11, 1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On le connaît, le texte. On le connaît bien, n'est-ce pas ? Mais combien c'est difficile. Combien, quand la tentation est là, on pense que l'épreuve est trop dure. Aucune tentation ne vous a été donnée qui n'ait été humaine. Mais Dieu avec. Et Dieu est fidèle et il vous donne les moyens. C'est peut-être un peu du rabâchage de dire, ah, pasteur, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas toujours la même chose. On vit ces choses au quotidien, mes amis. Vous et moi. Si vous pensez qu'un pasteur, il n'est pas tenté, alors là, mes amis. Là, le diable, il a mon adresse, mon email, mon numéro de téléphone, il a tout. Hein. Là, on ne peut pas appuyer sur delete. Hein. Il sait où j'habite. Il le sait, le bougre. La foi voit au-delà des choses visibles et passagères. Elle se réjouit par anticipation des choses invisibles et éternelles. Vous n'avez jamais imaginé passer seul, sans Dieu, nos épreuves. C'est pas possible. On s'écroulerait, mes amis. On s'écroulerait. Sans ressources, c'est impossible. C'est impossible de tenir. C'est impossible de tenir debout. C'est impossible d'apprécier. Quand nous affirmons que Dieu veut notre bénédiction, prenons garde de ne pas oublier que le monde dans lequel nous vivons est le théâtre d'une lutte intense. Éphésiens 2:2 nous dit « Entre le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et nous étions de leur nombre. » Vous savez, quand deux équipes de foot vont s'affronter, ce qui est intéressant maintenant, hein, avec toute la technique, ils peuvent passer tous les matchs de l'autre équipe et regarder individuellement où se place le joueur, comment il joue, qu'est-ce qu'il fait. Et moi, je me demande, avec tout l'argent qu'ils investissent, comment ils ne gagnent pas après. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que face à l'épreuve, face à la difficulté, face à la tentation, Dieu est là. On n'a pas à lutter contre les hommes, contre les esprits méchants, les dominations sataniques, les puissances malfaisantes, les principautés diaboliques qui règnent sur le monde de ténèbres. Mais nous, il me semble que nous avons fait quelque chose ensemble. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et même, dans Éphésiens, il est marqué que nous sommes lumière. Donc si le diable règne sur le nom de ténèbres et que nous sommes lumière, si je fais une bonne déduction, une bonne synthèse, et ne règne pas sur nous. Vous n'avez jamais pensé à ça? Si je suis passé des ténèbres à la lumière, si je suis devenu lumière, le diable, il ne règne pas sur moi. Il ne règne pas sur moi. Il est là. Je ne l'invite pas, mais il est là. Mais il ne peut pas régner. Il n'a plus toutes les ficelles. Il n'a plus toutes les ficelles. L'origine de tant d'épreuves, de spasmes, de tentations, de tensions, de ruptures, c'est le diable qui est là. Et à qui nous laissons la barre. Qu'elle soit la puissance de l'adversaire rôdant comme un lion rugissant. Vous savez, l'Écriture nous donne ces magnifiques images, hein. Il est comme un lion rugissant, cherchant à dévorer sa proie, sachant que celui qui est en nous est plus grand que lui. Vous savez, un jour, on a été dans un grand parc à l'ouest de Paris. Là, j'ai oublié son Thoiry. Non, pas Thoiry. Enfin, bref. Peu importe. C'est à l'ouest de Paris. Et alors, à l'époque, j'avais une toute petite voiture, une 104Z. 104Z, c'est un petit machin grand comme ça, là, avec un moteur devant quand même. Mais très fragile. Et alors, il y avait un parc aux lions qu'on pouvait traverser où les lions étaient en liberté. Et moi, j'ai dit à Becky, super, on va aller voir ça. Oh, on rentre, c'était un peu comme le jour, il faisait 37, 38. Et ma voiture, d'un seul coup, a décidé de s'arrêter. Dans le parc aux lions. Et juste à côté de nous, là, il y avait une tête de lion. Et c'était pas le Crédit Lyonnais, hein. Et là, c'est joli, Lyon. Quand c'est pas à côté de la 104Z. Hein. Et mes amis, le diable, il peut être là. Mais dans la voiture, il y avait Dieu. Et on en a douté quelques instants. On a pensé à la Peugeot qui n'allait peut-être pas bien réagir si le lion décidait de venir nous croquer. Mais Dieu nous a délivrés. Et je pense que le diable, il peut s'approcher comme ça. Comme dans le parc. Il est en liberté, le diable. Il est sous contrôle. Il est enchaîné. Mais il a suffisamment de force pour nous faire peur, pour nous faire douter, pour nous faire croire, pour imiter. Jacques 4, 7 nous dit « Résistez avec une foi ferme à votre adversaire, le diable, et il fuira de vous. Ha ! Que l'Éternel te bénisse, qu'il te donne les moyens de comprendre. C'est pas notre résistance qui est en jeu, c'est de laisser Dieu agir. Satan règne sur le monde des ténèbres, mais non sur les fils de la lumière. Trop de chrétiens oublient ou ignorent ce fait. Dieu nous a fait toujours triompher en Jésus-Christ. Hein ? C'est marqué dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais on se comporte comme des vaincus. Non ? Oh, le diable a raison. C'est sûrement lui qui a raison. Mais non, je ne vais pas y arriver. C'est pas possible. Mais vous imaginez ce qu'on dit à Dieu quand on fait ça ? On lui dit, t'es pas capable. Qu'est-ce que je fais dans ton équipe ? Vous vous rappelez le peuple d'Israël ? Il était en Égypte, il était sans l'esclavage, il n'arrêtait pas de râler, rien n'allait bien. Dieu les libère, les amène, il les nourrit tous les jours, il leur permet que leurs habits ne s'abîment pas, il leur donne tout ce que... Ah ouais, mais c'était bien mieux avant. C'était bien, on avait de la bonne nourriture. Nous, on est un peu les mêmes, non ? Le bon temps. Je parlais avec mon frère Jacques l'autre jour dans la voiture, on parlait du service militaire obligatoire. Alors, ceux qui l'ont fait, ils attendaient qu'une seule chose. Ils attendaient qu'une seule chose, c'était la quille. La quille, c'est le jour où ils sortent. Ils se disent, oh, quelle horreur. Et alors, des années plus tard, qu'est-ce que c'était bien l'armée. Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est bizarre, hein. On est frappé par la maladie d'Alzheimer très précoce. Ce qui était mal devenu bien. Mais on oublie. On dit que quand on est sous le domaine de Satan, c'est pas bien. Il peut nous donner des choses tout de suite, là, de l'argent. Allez, il en a de l'argent, il s'appelle Mammon. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Le croyant lutte à partir de la victoire remportée par Jésus-Christ sur Satan, une fois pour toutes. Et la mort, non, dans le but d'obtenir une victoire. On ne lutte pas pour vaincre. Nous luttons parce que Dieu a vaincu. Et en se reposant sur sa victoire. Et ça, ça change mon combat, non ? Parce que Dieu a vaincu d'avance. Et le diable refuse. Satan cherche à nous user par l'épreuve, dans le secret espoir d'exploiter l'avantage que lui donne notre nature pécheresse. Le terrain de la convoitise, le terrain des passions. Nous négligeons de nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Christ, Romains 6, 11. Morts au péché, vivants pour Christ. Mes amis, nous allons encore pécher. Par accident. Mais nous avons arrêté de vivre dans le péché. Mais la victoire, c'est Christ qui me la donne. Nous pouvons tomber, nous allons tomber quand finalement nous quittons du regard, quand finalement notre identité n'est pas affermie. Le processus qui aboutit au péché est à partir du moment où je livre, j'abandonne, je laisse faire. Nous ne pouvons pas échapper à l'épreuve. Mon Dieu attend qu'elle concourt à purifier notre foi et à l'affermir. La bénédiction consiste à recueillir le fruit que Dieu a préparé d'avance pour nous, qu'il veut et peut produire, c'est-à-dire une ressemblance encore plus grande à Jésus-Christ. Quatrième point, les passions. Pas le fruit, hein. Le fruit de la passion, c'est bon. Le but de Satan, c'est opposé à celui de Christ. En harcelant le chrétien, les croyants, il cherche à exciter la chair et il sait où taper. Il ne va pas nous demander de... Vous savez, il y a des choses qu'on n'aime pas. Il ne va pas venir en disant, bah, tiens, fais ça. Si on passe devant la pâtisserie, que là, il y a un truc avec de la fraise et de la chantilly. Il y a un enfant, il vient tous les matins à sa boulangerie. Et il dit, est-ce que vous avez des tartes aux poireaux ? Là, il y a le boulanger, il dit, des tartes aux poireaux. Puis il revient le lendemain, vous avez des tartes aux poireaux ? Non ? Et puis comme ça, toute la semaine, et puis au bout d'un moment, le boulanger, il se dit, bah, peut-être ce petit garçon, il est gentil, quoi, peut-être qu'il veut une tarte aux poireaux. Alors il lui fait une belle tarte aux poireaux. Et puis le lendemain matin, le petit garçon, il vient, il dit, vous avez une tarte aux poireaux ? C'est pas bon. Le diable, il va pas nous proposer des choses méchantes. Il va toujours nous piquer là où il sait qu'on va tomber. Et si on commence par dire non, et non, et non, vous savez, j'ai été fumeur. Et alors, un jour, j'ai décidé d'arrêter de fumer les miennes. Mais pas de fumer celles des autres. Donc je me disais, voici mon offre. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais Seigneur, tout ça, ça te fait du mal. Mais c'est Dieu qui m'a convaincu. Mais le diable, lui, il y avait, sur les 3000 employés de l'usine, il y en avait au moins 2999 qui fumaient dans mon service. Donc je pouvais ne pas être en panne. Et ça m'a coûté cher, les amis. Ça m'a coûté cher de dire non. Prendre position pour Christ, ça coûte cher. Mais l'assurance extraordinaire. L'assurance extraordinaire, c'est la paix que ça produit. Seigneur, tu es avec moi. Et je ne suis pas un être héroïque à mes amis. Ça a été dur. Ça a été des prières. Ça a été des passions. Parce qu'à chaque fois, je rentrais dans l'usine. Seigneur, il y a 8 heures. Il n'y avait pas. pas d'endroit dans l'usine où ça sentait pas le tabac. Même mon chef, hein, il rentrait dans le bureau, c'était fou. On ouvrait la porte. Ça fumait partout. Si Dieu permet une telle école, mes amis, c'est qu'à travers elle, nous apprenons que la chair est faible, que le diable est rusé. Instruits par l'expérience même négative, nous nous méfions de la chair et nous ne laissons pas à Satan l'avance sur nous. C'est le réformateur Martin Luther. Il a dit ceci, il a dit, le diable a contribué par ses attaques et ses tentations à faire de moi un serviteur de Dieu éprouvé. Le diable a contribué par ses attaques et ses tentations à faire de moi un serviteur de Dieu éprouvé. Comment est-ce que nous pouvons manifester notre foi ? C'est dans l'épreuve. C'est dans la tentation. Le contexte de la bénédiction est donc celui d'une bataille, d'une tempête. Deux royaumes, la lumière, les ténèbres. Mais Dieu est celui qui nous a emmenés de des terribles ténèbres jusque dans sa lumière. Les circonstances de notre pèlerinage terrestre, mes amis, elles sont difficiles. Que ce soit les vôtres ou que ce soit les miennes. On aimerait que Dieu nous délivre du mal. Je présente un livre là. Que Dieu nous délivre du mal. C'est ce qu'on prie, hein. Le texte dit, délivre-nous du malin. Du malin. De l'adversaire. Et Dieu nous a délivrés de l'adversaire. Il nous a rendus libres. Et si vous voulez lire un livre sur la démonisation et sur la tentation et sur les difficultés, mes amis, je vous encourage à lire ce livre. Ça paraît un livre un petit peu compliqué à lire, mais c'est un livre les plus équilibrés qui existe dans ce domaine. Je vous donnerai la référence si ça vous intéresse. Il m'a fait beaucoup de bien. C'est un livre très équilibré. Vous estimez peut-être que l'épreuve a bien trop duré, que la bénédiction est lente à paraître. Toujours l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 10 et 11. Elle dit ceci. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » On peut estimer que le temps est trop long, que la bénédiction tarde à venir, que Dieu est sourd, mais Dieu nous entend bien. Le cinquième point, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne tirez pas de votre situation actuelle des conclusions hâtives. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Le moment présent ne doit pas nous fasciner, c'est la fin qui compte. Car personne ne pourra nous retrancher. Personne ne pourra ajouter à ce que Dieu a fait. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 8. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4. Ça ne vous fait pas du bien de réaliser que cette bénédiction que Dieu a mise de côté pour nous et suggère que nous prononcions sur nos frères et sœurs, ceux qui ont été invités, ceux qui ont été appelés, ceux avec qui on va passer l'éternité, mes amis. On ne passerait peut-être pas les vacances avec eux, mais on va passer l'éternité. Ça peut être nos finances. Ça peut être notre santé. Ça peut être notre situation familiale. Ça peut être notre travail. Il y a tellement de domaines où on peut être en galère. Où on peut se dire, mais Dieu m'a oublié. Mais que fait Dieu là-dedans ? Dieu, il attend une chose, c'est qu'on réalise qui nous sommes, que nous ne sommes plus dans les ténèbres, que le diable n'a plus pouvoir pour régner sur nous, qu'il peut nous user, nous fatiguer. Vous savez, quand je rigole, souvent je m'amuse avec Dina Joy, je raconte des blagues, et à un moment, des fois elle me regarde et me dit « Papa, tu me fatigues. » Papa, tu me fatigues. Le diable, et j'espère que je ne suis pas le diable pour elle, mais le diable, il nous fatigue. Et il revient sans arrêt. Et finalement, il dit, regarde, ton Dieu, il ne s'occupe pas de toi. T'as vu la galère dans laquelle Dieu t'a abandonné. Dieu t'a laissé tomber. Mes amis, jamais, jamais Dieu ne nous laisse tomber. Jamais. Nous sommes ses enfants. On peut lui tourner le dos. On peut lui dire, papa, lâche-moi. On ne lâche jamais. Parce qu'il a un père tendre. Parce que il a un père bienveillant. Parce que son cœur, c'est de nous bénir. C'est de nous bénir. Pourquoi l'épreuve ? Peut-être cette question vous hante. Parce que le diable, le calomniateur, l'accusateur, le meurtrier, émet des doutes, lance un défi, réclame. Dans Job 1, 9 à 10, il se présente devant Dieu. Et il dit, est-ce là d'une manière désintéressée que Job te sert ? Mais non. Ne l'as-tu pas protégé ? Sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Mais enlève tout ça. Même le diable, il vient dire à Dieu, doute. Doute. Il nous fait douter, mais voilà. Alors, il lance un défi à Dieu. Il dit, étends ta main, c'est au verset 11. Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Le diable, il veut initier le doute même à Dieu, sur nos motifs. Le diable, il lance même un défi à Dieu. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui t'appartient, je te le livre. Ouh, ça fait chaud dans l'eau. Ça laisse le poids, on dit, oh là là, mais Dieu, tu fais quoi? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Est-ce que vous croyez que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Si Dieu vous a pris pour enfant, il sait exactement ce qu'on va faire. Il sait exactement comment on va résister. Et quand vous avez lu le livre de Job, j'espère que vous l'avez lu, quand vous arrivez à la fin, Monsieur Job de dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et non, c'est notre problème, mes amis, c'est notre problème. Oh, les textes, on les connaît. À chaque fois que je dis un texte, vous le citez autant que moi. Sauf que quand c'est le moment de mettre en pratique. Vous voyez bien un texte, là, vous voyez. Pas facile. Pas facile. Le diable nous réclame. Le diable nous crible. Mais l'assurance, c'est que Dieu est avec nous. Et que Dieu veut nous bénir. En supportant. Voilà, il y a cette phrase, hein. Le diable est capable de nous nuire, mais pas de nous vaincre. Parce qu'il n'a pas pu vaincre Jésus. En supportant patiemment la tentation qui naît de l'épreuve, en refusant de céder à l'amertume, en comptant sur la rétribution finale, nous donnons la preuve éclatante que nous aimons Jésus. Pour celui qui était et qui vient, l'amour de Christ, c'est l'assurance que Dieu ne m'abandonnera jamais. L'amour de Christ, c'est savoir que dans l'épreuve, dans la joie, Dieu est là. Que quand il pleut dehors, il y a du soleil dedans. Que quelles que soient les circonstances de ma vie, Dieu est là. C'est ma question. Ma vraie question, est-ce que je suis sûr ? Est-ce que le diable diable va jouer toute votre vie tant que vous n'aurez pas décidé, tant que vous n'aurez pas résolu, c'est de nous faire lutter. Tu appartiens à qui ? Oh, on est tellement bien dans ce monde. Regarde les choses que le monde peut te donner. Tu peux devenir une star. Tu sais, bon, moi j'attends, je crois que je vous l'avais dit il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, j'attends l'émission qui dise devenir un pauvre. Comment devenir pauvre ? Comment être un bon chômeur ? Comment être ruiné ? Mais il n'y aurait personne devant la télé. Vous savez pas chanter ? Venez, comment ça s'appelle le machin où ils vont la chaise là, The Voice. Imaginez. Toutes les casseroles, on y va tous. Il n'y a pas un siège qui se retourne. Ils disent, c'est une erreur de casting, hein, les gars, il faut faire autre chose. Tout ce qu'on propose au monde entier, c'est de devenir des stars. Des gens bien, des gens riches. Dieu dit, moi je veux te bénir. Moi je veux te bénir pour l'éternité, avec une résonance dans l'éternité. Alors, je vais relire les textes du départ. Je vais juste relire ce texte. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Un défi. La référence est donc Nombre 6, 23, 27 et 2 Corinthiens 13, 13. Pardon, merci de m'avoir parlé. Nombre 6, 23, 27. 2 Corinthiens 13, 13. Je les avais donnés au début. Un défi pour l'été. Un défi pour l'été. On prie pour chacun des frères et sœurs de l'Église, pour chacun de ceux qui viennent à l'Église, que nous connaissons. Et on prie ces textes. Pour eux. Pour eux. Et quand on va revenir de vacances ou à la fin de l'été, quand eux vont revenir, on pourra leur lire ces textes en disant, ok, là, mes amis, on va accomplir le plan de Dieu. Parce que l'Éternel veut que nous bénissions et pas que nous maudissions. Que nous pardonnions, pas qu'on ait de la rancune. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Aimer et aller plus loin. Et s'il y en a qui veulent lire pendant l'été ce petit livre, il est vraiment extraordinaire. Il est un peu cher. Voilà, je vais prier. Seigneur Jésus, ton cœur, je l'ai dit au début de cette prédication, c'est de nous bénir. Et pour cela, tu as accepté le chemin que nous devions franchir. Tu as payé notre dette. Tu es mort à notre place, à ma place. Tu n'as pas considéré ta position à toi, mais tu es venu mourir là, comme un pécheur, comme moi, alors que toi, tu n'avais pas péché. Et Seigneur, en relisant ce texte aujourd'hui avec mes frères et sœurs, ce texte de bénédiction, je voudrais que chacun dans cette pièce puisse prendre ce texte pour lui, pour elle. Parce que c'est ta volonté. Que tu puisses bénir chacun. Que tu puisses garder chacun. Que tu puisses faire luire ta face sur chacun. Que tu puisses accorder ta grâce. C'est ta volonté, Seigneur, à chacun. Que tu puisses tourner ta face vers chacun et que tu puisses donner la paix. Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Moi, je veux prier ce matin, Seigneur, pour ton assemblée, pour ceux qui sont là ce matin. Bien sûr, pour les autres, mais déjà pour ceux qui sont là. Si vous avez besoin d'être rappelé, d'être gardé, si vous avez besoin que Dieu fasse luire sa face sur vous, si vous avez besoin que Dieu vous accorde sa grâce, si vous avez besoin que Dieu tourne sa face vers vous, qu'il vous donne la paix. Alors moi, je vous invite, là où vous êtes, vous levez votre main, vous dites, Jean-Claude, c'est la prière dont j'ai besoin. C'est la prière dont j'ai besoin aujourd'hui. Parce que le diable me harcèle. Parce que je finis par douter, parce que je suis épuisé. Parce que j'ai besoin de cette paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait, oui, que Dieu te bénisse, oui, 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 tu vois, Seigneur, ces mains qui se sont levées, elles ne se sont pas levées en vain, elles se sont levées vers toi. Parce que tu veux que ces amis qui sont peut-être usés, fatigués, tu connais leurs conditions, tu sais là où ils sont, elles sont. Et tu les aimes, parce que ce sont tes enfants. Alors Seigneur, bénis-les abondamment. Fais-leur du bien. Permets que dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de difficulté, elles te retrouvent toi. Que tu puisses reprendre leurs mains, si elles ont lâché ta main. Que tu puisses permettre que la guérison, que la délivrance puisse être là, mais qu'elle puisse passer tout cela par ta grâce, en s'appuyant sur ta foi et sur ton amour. Au nom de Jésus. Amen.